Il est 8h44 à Paris. À suivre la revue de la presse de Frédéric Couteau et l'invité Afrique, Faï Rahman Rodrigue Conné, chef du projet Sahel à l'Institut d'études et de sécurité. Comment la CDAO peut-elle éviter la rupture avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso? Question à 3 jours du sommet de l'organisation. Et puis avant 9h, évidemment, l'humeur de Maman.
Nathalie Amar.
Nous sommes le jeudi 4 juillet à la une de l'actualité. Les Britanniques aux urnes. Depuis moins d'une heure, 650 sièges de députés en jeu pour ces législatives anticipées. Les sondages donnent la gauche travailliste largement en tête des intentions de vote après 14 ans de pouvoir des conservateurs. Le Premier ministre sortant, Rishi Sunak, implore les électeurs de ne pas donner une super majorité à la gauche. En France, second tour des législatives dimanche. Les représentants des 3 grands blocs en présence se sont succédé hier à l'antenne sur la chaîne de télé privée BFM. Au même moment, des milliers de personnes se rassemblaient à Paris à l'appel de nombreux médias, syndicats, associations pour appeler au vote contre l'extrême droite. Au Proche-Orient, le Hamas affirme avoir envoyé aux médiateurs de nouvelles idées pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, ravagée par près de 9 mois de conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Israël évoque de son côté des commentaires du Hamas sur un accord visant à une libération des otages. La revue de la presse avec vous, Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
À la une ce jeudi, Mahamat Idriss Déby dans le collimateur de la justice française.
Oui, c'est Mediapart qui avait levé le lièvre en décembre dernier. Le site d'information révélait alors ce qu'il nommait les folles emplettes du président du Tchad à Paris. Lors de 2 séjours dans la capitale française, en décembre 2021 et en mai 2023, Mahamat Idriss Déby Itno aurait déboursé, selon Mediapart, près d'1 million d'euros pour acheter des costumes chez un célèbre tailleur de la place de Paris. Pour atteindre cette somme astronomique, 915 070 euros, très exactement, le chef de l'État s'est offert des vêtements sur mesure par dizaines, précisait encore le site. 57 costumes d'une valeur unitaire allant de 9 000 à 13 000 euros, 100 chemises à 800 euros, 8 abacoste à 8 000 euros, 9 sahariennes à 7 500 euros. Une liste interminable a donné le tournis. Qui plus est, quand l'on sait que le Tchad est l'un des pays les plus pauvres au monde, s'exclame encore Mediapart. En 2023, 35% de sa population vivait dans une situation d'extrême pauvreté avec moins de 2,15 $ par jour, selon la Banque mondiale.
On l'a appris avant-hier, pointe Le Monde Afrique. Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris par le PNF, le Parquet National Financier, en janvier dernier pour détournement de fonds publics et recel.
Oui, une enquête qui pourrait être élargie au patrimoine immobilier que détient la famille Déby et son entourage en France, selon l'hebdomadaire économique Challenge. Après Teodoro Obiang-Nguema en Guinée équatoriale, la famille Bongo au Gabon et les Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, pointe le journal. C'est donc désormais le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, qui est visé par une enquête ouverte à Paris sur des soupçons de biens mal acquis en France.
Anne Jamena, on n'est pas du tout inquiété par cette affaire, relève pour sa part le site Afrique.com.
Nous espérons que cette enquête établira la vérité et dissipera l'intention de nuire à la réputation du président de la République du Tchad, l'homme neuf de valeur qui a dirigé une transition politiquement et historiquement réussie. C'est ce que confie un conseiller à la communication du dirigeant tchadien. Dans son livre « De Bédouin à Président » publié en mars dernier, Mahamat Idriss Déby était déjà personnellement revenu sur cette affaire qui, pour lui, pointe le site Afrique.com, qui pour lui n'est qu'un symbole de la manipulation politique, dénonçant un tapage médiatique absurde. Le président tchadien a insisté sur sa préférence prononcée pour les habits traditionnels de son pays, au détriment des costumes dont il n'a jamais été un adepte. Il est vrai que sur les photos officielles, telles qu'on peut les voir, par exemple, sur le site Tchadvision, le président tchadien apparaît quasiment toujours revêtu d'un boubou blanc.
En tout cas, cette affaire mettra-t-elle à mal les relations déjà fragiles avec Paris? Question posée par Jeune Afrique.
Les Français surveillent en effet la montée en puissance d'acteurs russophiles au sein de l'exécutif tchadien dans un contexte de perte d'influence au Sahel. Plusieurs actions étaient récemment en cours pour convaincre Mahamat Idriss Déby Itno de ne pas céder aux sirènes de Moscou. L'envoyé spécial du président Macron pour le Sahel, Jean-Marie Bockel, avait prévu de se rendre de nouveau au Tchad, tandis que le Quai d'Orsay travaillait à une visite d'une délégation du patronat français, Anne Jamena, repoussée depuis plusieurs mois. Une visite de Mahamat Idriss Déby Itno en France était également évoquée. Alors, s'interroge encore Jeune Afrique. Alors cette affaire des costumes viendra-t-elle mettre un frein ou un terme à ces efforts déjà mis à mal par l'incertitude politique en France, née de la dissolution de l'Assemblée nationale et d'une possible prise par l'extrême droite du poste de Premier ministre au sein du palais présidentiel et de l'entourage de Mahamat Idriss Déby Itno, plusieurs conseillers de premier plan, habituellement favorables à un éloignement d'avec Paris, s'en sont déjà saisis.
Quel impact sur les relations entre Paris et N'Djamena, s'interroge en écho le pays à Ouagadougou.
Le timing de la médiatisation de cette affaire, qui intervient quelques semaines après la visite du ministre russe des Affaires étrangères au Tchad, ce timing ne manque pas d'interroger sur le pourquoi du maintenant, alors que l'enquête a été lancée depuis le mois de janvier dernier. On peut donc se demander, conclut le pays, si cette affaire n'a pas des relents politiques dans un contexte où la France cherche à contrer l'influence grandissante de la Russie en Afrique.
Frédéric Couton, on vous retrouve comme chaque matin à 9h15 pour la revue de la presse internationale. Comment éviter la rupture avec les trois pays du Sahel central, Mali, Niger, Burkina Faso? C'est le principal enjeu du sommet des chefs d'État de la CEDEAO ce dimanche 7 juillet à Abuja. Il faut repenser la gestion des coups d'État en Afrique de l'Ouest, dit justement un rapport de l'ISS qui vient de sortir. Il préconise une révision du régime de sanctions contre les auteurs de putsch. L'ISS, c'est l'Institut d'études de sécurité au sein duquel Faye Ramon-Rodrigue Koné dirige le projet Sahel. Il est l'un des 7 auteurs de ce rapport et il est ce matin l'invité de Christophe Boisbouvier.
Faye Ramon-Rodrigue Koné, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi dites-vous qu'il faut repenser la gestion des coups d'État en Afrique de l'Ouest?
Je pense que cette suggestion s'impose à la lumière de l'actualité. Nous constatons que la CEDEAO en particulier a de la peine à pouvoir clairement agir sur ces transitions, alors qu'elle avait toute cette influence il y a quelques années. On constate clairement qu'elle semble ne pas réussir à mettre la pression sur les auteurs actuels des coups d'État dans la région. Et l'institution elle-même reconnaît qu'il y a besoin de pouvoir se réformer et s'adapter de sorte à pouvoir faire face à ces crises. Le 24 février passé, qui était le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, le président en exercice, le président Tinubu, a appelé un réexamen de l'approche de l'organisation de sorte à enrayer cette dynamique des coups dans la région.
Quelles sont, à votre avis, les raisons pour lesquelles la CEDEAO n'a pas réussi à contrer efficacement la menace terroriste ces 12 dernières années dans 3 de ses pays membres?
Il faut dire, dans cette phase de la lutte contre le terrorisme dans la région, il y a eu plusieurs forces ad hoc qui ont été mises en place et qui ont affaibli son leadership. On va se rappeler, par exemple, de la force multinationale MIX qui a été mise en place en 2014 pour lutter contre Boko Haram. En 2015, de la mise en place du G5 Sahel et en 2017, de l'initiative d'Accra. Toutes ces forces ad hoc mises en place même par des chefs d'État de la région ont donc créé des formes de rivalités institutionnelles et financières qui ont donc porté atteinte au positionnement de la CEDEAO dans la région et ont miné sa capacité donc à gérer cette crise sécuritaire.
Alors, dans votre rapport, vous écrivez que la CEDEAO devrait réviser son régime de sanctions à l'égard des auteurs de coups d'État. Est-ce à dire, Faye Ramon-Rodrigue Koné, qu'il faudrait supprimer les sanctions?
Non, pas du tout. Les sanctions sont utiles et elles sont nécessaires. Il ne peut pas avoir de règles sans sanctions, sinon les règles n'auront pas de sens. Donc, un régime de sanctions pour nous réviser inclurait des critères d'application plus clairs, tout en restant flexibles et veillant surtout, et ça c'est important, à réduire autant que possible les effets sur les citoyens innocents, de sorte à limiter un peu les effets nocifs et aussi d'adopter une posture plus systématisée et plus adaptée aux différents contextes. Aussi, on pense qu'il faut une prévisibilité dans la gradation des sanctions sur la base des critères objectifs et une clarification des déclencheurs des différents niveaux de sanctions pour que l'instrument soit beaucoup plus efficace.
Voulez-vous dire que fermer les frontières avec le pays putschiste, comme cela a été fait au Mali en 2021 et au Niger en 2023, c'est une sanction trop lourde?
C'est une sanction surtout sur laquelle tous les acteurs n'étaient pas totalement d'accord et qu'ensuite ces sanctions se sont appliquées dans un contexte particulier de pays qui sont frappés par une menace sécuritaire de longue date où les populations déjà pauvres sont très vulnérables. Donc ces types de sanctions peuvent être contre-productives et on l'a vu, elles l'ont été dans la mesure où elles ont plutôt renforcé l'assise populaire des militaires, dans la mesure où ces derniers se sont basés sur ces mesures là pour accroître le sentiment patriotique et renforcer la posture souverainiste de l'État.
Que répondez-vous à ceux qui pourraient vous reprocher d'être trop complaisant à l'égard des auteurs de coups d'État?
Il ne s'agit pas d'encourager des transitions militaires longues, ni aussi d'encourager l'incursion des militaires dans la sphère politique. Nous conseillons une approche beaucoup plus pragmatique dans un contexte qui a totalement changé, où les institutions régionales, notamment la CEDEAO, ont du mal à appliquer l'organisation rapide des élections pour des transitions assez courtes. Et donc, une approche plus pragmatique indiquerait comment on peut accompagner le contenu de ces transitions en mettant l'accent sur la sécurité, l'éducation, la santé, de sorte à stabiliser dans un long terme ces États-là.
Donc, ce sommet de dimanche prochain à Abuja peut être l'occasion d'un début de refondation de la CEDEAO?
Il faut une réforme à la fois des institutions, du modèle de fonctionnement de la CEDEAO, mais également de ses instruments, notamment de son protocole pour la gouvernance, d'une révision du régime des sanctions, des modalités d'usage de la force. C'est une réflexion collective des chefs d'État qui doivent être également les porteurs de ce changement en posant des actes qui vont dans le sens du respect des principes et des normes démocratiques de l'institution.
Faye Raman, Rodrigue Connet, je vous remercie.
Le chef du projet Sahel à l'Institut d'études et de sécurité entretien avec Christophe Boisbouvier à retrouver en intégralité sur RFI.fr. 8h55, RFI Matin, voici Maman. Au Gondwana, Maman, on ne dit plus armée gondwanaise, mais force de défense et de sécurité.
Oui, si tu es un habitué de la très très démocratique République, tu sais depuis longtemps que l'armée gondwanaise a changé de nom. Elle a fait un rebranding, comme on dit dans le monde moderne. Armée gondwanaise, ben c'est démodé. Aujourd'hui, on dit force de défense et de sécurité, FDS pour les intimes. Armée de libération, armée nationale, armée de l'air, armée de terre, et c'est fini tout ça. Ça sent trop les années 1900 quelque chose, avec leur défilé de soldats ventrus, mal fagotés à la fête de l'indépendance. Paradant avec des fusils de la Première Guerre mondiale et de vieux véhicules militaires aux roues peintes en blanc, comme lorsque tu mets tes souliers neufs pour aller danser au bal. Quand tu dis armée, on comprend que les gars qui sont dedans sont armés. Armes légères, armes lourdes, armes de combat. Mais ça, c'était avant, autrefois, autant jadis, quand seuls les militaires étaient armés en très très démocratique république. Il y avait d'un côté les militaires armés et de l'autre les civils désarmés, c'est-à-dire toi et moi, quoi. Les militaires ayant pour mission de protéger les civils, de les rassurer juste par leur présence protectrice et armée. Même si, dans la réalité gondwanaise, quand les civils voient des militaires armés dans la rue, ben ils ne sont jamais bien rassurés et ont juste une seule envie, rentrer vite à la maison et fermer portes et fenêtres. Aujourd'hui, on ne dit plus armée, mais FDS, Force de Défense et de Sécurité, parce que les choses ont changé. Eh oui, les militaires ne sont plus les seuls à être armés. Hein. Les armes sont partout aujourd'hui au Gondwana. Il n'y a plus d'un côté les militaires armés et de l'autre les civils désarmés. Non. Aujourd'hui, au 21e siècle, les civils sont armés aussi. Hein. Bah oui, groupes armés, djihadistes, rebelles, braqueurs, coupeurs de route, milices, terroristes et j'en passe. Et des civils armés à chaque coin de rue de la très très démocratique république. Mais attention, les civils désarmés sont toujours là. Hein. Oui, on est là, on n'a pas bougé. Ils sont toujours au bas de la chaîne alimentaire, les civils désarmés. Éternel gnou de la savane, éternellement pour chasser et dévorer par les prédateurs armés. Les civils désarmés se retrouvent ainsi pris en étau entre les militaires armés et des civils eux aussi armés. Le pauvre civil désarmé ne sait plus qui est qui et qui n'est pas qui. Hein. Pour l'aider à faire la différence, on lui a d'abord dit qu'il y a les corps habillés d'un côté et les bandits armés de l'autre. Mais ça a déboussolé le pauvre civil désarmé parce que l'habit ne fait pas le corps habillé, hein, surtout quand il se fait racketter à chaque checkpoint de corps habillés. Et c'est pour ça qu'on lui a enfin dit qu'aujourd'hui, il y a les civils armés qui l'attaquent, le braquent, le débouillent, le kidnappent, le rançonnent, et de l'autre, ceux qui le défendent et assurent sa sécurité, c'est-à-dire les FDS, les Forces de Défense et de Sécurité, comme leur nom l'indique. Ne cherche pas à comprendre, hein, c'est comme ça. À lundi.
À lundi, Maman. Bonne journée à vous, à suivre dans RFI Matin. Andréane Mellard pour le journal, dans 2 minutes tout juste.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Bientôt les JO, mais que peut en espérer l'Afrique d'un point de vue économique? Nous recevons plusieurs personnalités du sport business, investisseurs, chefs d'entreprise, patrons de chaînes de télévision et des athlètes, dont le triple sauteur burkinabé Fabrice Zango, docteur en génie électrique, il vise l'or à Paris.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la BOAD,
tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Avignon devient capitale mondiale du théâtre à partir du 29 juin. La nouvelle édition du Festival d'Avignon nous invite à chercher les mots ensemble pour dire et habiter ce monde avec 37 spectacles et expositions. Plus de 300 rendez-vous à destination de tous les publics avec cette année l'espagnol comme langue invitée et le chorégraphe Boris Charmatz comme artiste complice. En partenariat avec France Média Monde.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Suite au décès de l'écrivain Ismaël Kadare, mort à 88 ans à Tirana, et pour lequel l'Albanie, son pays, a déclaré 2 jours de deuil national, je vous propose de redécouvrir un grand entretien que l'auteur m'avait accordé en 2017 chez lui à Paris pour évoquer ses souvenirs littéraires et politiques.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.
L'Afrique en jeu, Sylvère Henri Cissé.
L'olympisme au cœur de l'été parisien. Mais quels engagements à l'international pour Paris 2024? Quelle politique de coopération, de partenariat, de solidarité de Paris 2024 avec l'Afrique? Des réponses à ces questions avec Sophie Laurent, directrice des relations internationales Paris 2024.
L'Afrique en jeu avec Sylvère Henri Cissé, tous les samedis à 11h30 TU sur RFI.